Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
À ce temps-là, Jean, l'un des douze, disait à Jésus : Père, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, qu'elle n'ait pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit : Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, et ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les hommes et qu'on jette à la mer. Et si ça vient pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi rendre manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer bon dans le royaume de Dieu que tu as plein d'aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu.
Mes amis, dans mon adresse de ce matin, je voudrais procéder en deux étapes. La première étape, je l'ai construite à partir de deux exemples similaires qui proviennent de la première lecture et de l'Évangile. Ensuite, à un deuxième moment, je vais conclure ma présentation, mais ce deuxième moment va s'inspirer de la finale de l'Évangile d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans la première lecture. Moïse a reçu du Seigneur la tâche de s'occuper du peuple hébraïque dans la traversée du désert. Il y a eu des moments difficiles dans ces traversées-là. À un moment donné, Moïse est comme fatigué. Alors il va demander au Seigneur de lui procurer des serviteurs, des personnes qui vont l'aider à gérer la gouvernance du peuple. Le Seigneur lui demande de trouver 70 anciens qui vont l'appuyer. Mais avant de faire ce travail-là, il faut recevoir le même esprit que Moïse. C'est ainsi que ces personnes-là vont se réunir dans ce qu'on appelait la tente de Dieu. C'était où il y avait la présence de Dieu dans le désert, où Dieu se révélait, où Dieu s'exprimait. Alors les 70 sont partis et vont recevoir l'Esprit du Seigneur dans la tente réservée uniquement au Seigneur. Quelques temps après, dans l'assemblée, deux personnes commencent à prophétiser, alors qu'ils ne font pas partie de 70, alors qu'ils n'ont jamais été dans la tente du Seigneur, alors qu'ils n'ont jamais été choisis par Moïse. Alors, Josué entend cela, il va voir Moïse. Il dit, comment ça se fait que Eldad et Medad sont en train de prophétiser, alors qu'ils ne font pas partie de nous? Comment est-ce qu'ils osent prophétiser? Il faut les interdire. Moïse dit non, s'ils prophétisent, c'est qu'ils le font au nom du Seigneur. D'ailleurs, ça serait formidable si le peuple entier, tout le monde, pouvait prophétiser, recevoir l'Esprit du Seigneur et parler en son nom. Vous voyez là, quand on regarde objectivement le fait de prophétiser, quand tu prophétises, tu annonces Dieu, tu annonces la conversion, mais ce que tu fais là, eh bien, c'est que ça vient du Seigneur. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième vient de l'évangile d'aujourd'hui. Là, les apôtres faisaient la randonnée sans Jésus. Voilà qu'ils observent quelqu'un qui expulsait les démons au nom de Jésus. Et le démon était expulsé. Maintenant, en revenant, Jean va voir Jésus. Il dit, mais Seigneur, nous avons vu un je ne sais qui là, qui était en train d'expulser le démon en ton nom, alors qu'il ne fait même pas partie de notre groupe. Alors que nous ne savons même pas ses origines, nous savons d'où il vient. Comment ça se fait qu'il ose expulser le démon en ton nom? Alors Jésus dit, écoute, celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas tout de suite parler contre moi. Celui qui est avec nous n'est pas contre nous. Celui qui est contre nous n'est pas ne va pas parler contre nous. Voyez-vous. En fait, quand on regarde encore objectivement, le fait d'expulser un démon, tu donnes la guérison à une personne, tu fais du bien à une personne. Cette guérison-là ne peut venir que de Dieu parce que tu fais du bien à la personne. Que tu sois parti, tu fais partie du groupe avec Jésus ou non, mais tu le fais au nom de Dieu, indirectement au nom de Jésus, c'est un bien. Donc, en fait, il me semble que l'enseignement d'aujourd'hui voudrait simplement nous rappeler que tout bien authentique, toute bonté authentique, l'amour authentique trouve sa source en Dieu, toujours et toujours. Que Dieu est la garantie du bien. Que Dieu est celui qui fait que l'amour soit amour, que la bonté soit bonté. Maintenant, si tu pratiques vraiment cet amour-là, cette bonté-là, si tu fais ce bien-là, tu ne peux que être inspiré de Dieu, qui est source de bien, de bonté et d'amour. Regardez, nous avons entendu malheureusement dans nos télévisions et à la radio qu'il y a eu encore un autre tsunami en Asie, et puis c'est en Indonésie. Et on dit qu'il y a des centaines et des centaines de morts. Quand je regardais la télévision hier, il y avait des bénévoles qui se sont mobilisés pour aller, ne fût-ce que trouver les personnes, les cadavres, parce qu'ils ne veulent pas qu'un être humain puisse disparaître comme ça dans les débris, ne fût-ce que trouver un cadavre et lui donner un enterrement approprié. Cette action-là, qu'elle vienne de n'importe quelle personne, cette action-là est une action, c'est un acte de bien. C'est un acte de Dieu. C'est inspiré par Dieu. Je regarde, dernièrement, nous avons vécu une tornade qui nous a tous et toutes secoués. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui triment, qui essaient de s'en sortir. Et j'entendais hier la mairesse de Pontiac à la télévision, elle qui disait qu'elle était vraiment épatée, vraiment édifiée de voir le nombre de bénévoles qui se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés, même ceux qui ont perdu des maisons et qui ne sont pas assurés. Des gens vont les aider gratuitement et ils font cela. Et même, disait-elle, Tim Hortons de sa région a procuré du café à tout le monde, à tous les bénévoles, pour les encourager. C'était sa manière de contribuer à aider. Et elle disait aussi qu'aujourd'hui, il y aurait un groupe qui viendrait de Ottawa-Vanier pour aller donner un coup de main dans le Pontiac, mais aussi que ce groupe-là a promis d'acheter de la pizza pour tous les bénévoles, pour travailler ensemble, essayer d'aider les sinistrés. Dites-moi, cette action-là, qu'elle vienne de chrétiens, qu'elle vienne de non-chrétiens, de n'importe qui, c'est un acte de Dieu.
C'est un bien de Dieu, parce que quand tu viens aider une personne pauvre, quand tu essaies de relever une personne qui est dans le malheur, cet acte-là ne peut être inspiré que par l'Esprit du Seigneur.
Le 27 octobre 1986, l'ancien évêque de Rome, Jean-Paul II, pour la première fois, il a invité les représentants et représentantes de toutes les religions du monde pour se réunir à lui, à Assise, et prier pour la paix dans le monde. C'était inédit. On n'avait jamais vu ça. Et certaines personnes étaient choquées de voir un pape debout en train de prier avec des représentants d'autres religions. Certains ont dit, oh, il est en train de prier avec des gens qui prient le démon. Et est-ce que le pape voulait dire que les catholiques vont prier maintenant comme les autres? Du tout. C'est une reconnaissance du bien qui s'est fait chez les autres. Quand une personne dans son cœur, dans sa conscience, essaie de prier Dieu pour l'avancement du monde, c'est un bien. Alors, à ce moment-là, en fait, c'est une invitation qui nous est lancée aujourd'hui par notre Seigneur, une invitation à une ouverture plus large, à un esprit plus ouvert plus largement, à un élargissement de notre esprit, à une générosité qui s'ouvre davantage au monde. Le Concile Vatican II, dans son document qui regarde le rapport entre l'Église catholique et leur religion, les autres religions, dit à un paragraphe que l'Église catholique admire, honore et encourage tout le bien, le beau et la justice qui se révèle dans les autres religions. Alors, si une communauté, un groupe fait du bien et ils ne nous appartiennent pas, est-ce que nous allons expulser ces groupes-là parce qu'ils ne nous appartiennent pas et le bien? Qu'est-ce que vous faites du bien? Plutôt, il faut prendre le bien et collaborer pour que le bien s'intensifie et se répande au niveau international, au niveau de toute l'humanité. Il me semble que c'est le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons dire? Eh bien, nous voulons dire que l'Esprit Saint se trouve dans l'Église catholique. Oui. Dieu agit dans l'Église catholique. Oui. Dans le même sens, nous ne voulons pas dire que nous avons le monopole de Dieu. Nous avons le monopole de l'Esprit Saint. Nous contrôlons Dieu. Si Dieu est ailleurs, hé, Seigneur, reste avec nous, ne va pas là-bas. Nous ne contrôlons pas Dieu. Nous ne contrôlons pas l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, dans sa majesté, il y a toujours l'inédit de Dieu. Il y a toujours la nouveauté de Dieu. Il y a la liberté souveraine de Dieu. Dieu peut agir où il veut, quand il veut. L'Esprit du Seigneur, dit Saint Jean, souffle là où il veut et quand il veut. Donc c'est pour dire que l'Esprit du Seigneur peut agir en dehors des frontières de l'Église catholique. L'Esprit du Seigneur peut agir en dehors de l'Église, de la religion chrétienne. L'Esprit du Seigneur peut agir où il veut partout. Nous n'avons pas le monopole de cet esprit-là, nous n'avons pas le monopole de Dieu. Nous n'avons pas le monopole du bien. Le bien peut se faire ailleurs aussi. Il me semble que c'est un message fondamental pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, le même pape Jean-Paul II disait que, comme je viens de l'affirmer, l'Esprit du Seigneur travaille dans l'Église catholique en même temps qu'il travaille en dehors de l'Église catholique. Quand nous prenons des cas comme, regardez aujourd'hui comment les jeunes sont très sensibles aux droits humains. Ça, c'est une manifestation de l'Esprit du Seigneur. Parce que les droits humains cherchent l'épanouissement de la personne humaine. Égalité entre les êtres humains, justice entre les êtres humains. Voyez-vous ? Alors, quand on est pris, on est porté à défendre les droits humains, on ne peut être qu'inspiré par Dieu.
Le problème d'environnement, l'environnement qui veut le bien de l'humanité, qui veut l'avancement de la Terre, qui veut l'avancement de notre planète, ça ne peut être inspiré que par l'Esprit du Seigneur. Comment est-ce que vouloir le bien, vouloir que le bien, que la Terre soit bien sauvegardée, que tout avance, et que tu enlèves cela de l'Esprit de Dieu? Impossible. Ce qui est bien vient de Dieu.
Dernièrement, j'entendais que l'ONU voudrait cibler la tuberculose dans le monde. Et puis, essayer de voir comment on peut vraiment l'éradicadier, vraiment l'éliminer. Alors, moi je me dis, mais regardez, la tuberculose. En fait, c'est une guérison d'une maladie. Mais si quelqu'un veut vraiment enlever la maladie qui fait souffrir les êtres humains, si vraiment quelqu'un veut guérir l'être humain, mais cet acte-là, mais c'est un acte de bien. L'acte de bien ne peut être inspiré que par Dieu. De même, quand nous entendons ce mouvement qui revient de plus en plus, le mouvement « moi aussi », quand tu vas objectivement, tu regardes les choses avec tout ton cœur, ce mouvement-là cherche la justice pour les femmes. Ce mouvement-là cherche la vérité, veut la vérité. Ce mouvement-là défend la dignité de la femme. Ce mouvement-là cherche la guérison des personnes qui ont été blessées par l'abus sexuel, qui n'avancent pas. Alors, tu ne vas pas me dire que ce mouvement-là n'est pas inspiré par Dieu, parce qu'il cherche le bien de la femme, il cherche le bien de la personne humaine, il cherche la guérison d'une personne. Alors, tu ne vas pas me dire que ce mouvement-là n'a rien à voir avec Dieu. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que le bien authentique est inspiré par Dieu, par notre Dieu. Et que nous, là, nous devons être en mesure de l'accueillir, de le percevoir, de le révéler et d'appuyer ce bien-là qui se fait. Une fois, c'est mon deuxième point, ma deuxième partie d'homélie, j'avais prêché durant une messe de funérailles, ici, dans la paroisse, et j'avais beaucoup insisté sur Dieu qui nous accueille, qui accueille les hommes, les femmes de tout coin, de tous les quatre coins d'horizon, de toute culture, de toute race. Et Dieu était généreux. Et puis, j'ai donné l'exemple du bon larron qui se meurt sur la croix. Je disais que le bon larron, là, regardez à la dernière minute, il regarde Jésus, il demande d'entrer au paradis. Et Jésus ne va pas entrer dans son histoire. Il l'accueille et puis il ouvre la porte du paradis. À la fin de la messe, un jeune adulte vient m'aborder et puis il me dit, donc pour vous là, c'est très facile, hein? Tout le monde va au ciel comme ça, on entre au ciel, on ne regarde pas, c'est la vie, on entre au ciel. Je dis, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi je voulais insister sur le fait que Dieu ouvre sa porte à tout le monde. Mais maintenant, comment faire pour entrer? Il faut que tu marches. Alors quand tu marches, ça veut dire que tu t'impliques, que tu veux, que tu as ta liberté d'entrer. Dieu ne peut pas te prendre par le cou, entre ici, viens ici, du tout. Donc il y a cette liberté, il y a ce désir qui doit venir de nous. D'ailleurs, même celui qui était sur la croix, le bon larron, il y a eu une conversion parce qu'il a dit, celui-là n'a rien fait, nous là, nous avons été des pécheurs de notre vie. Alors il tourne vers Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il y a eu une conversion, une ouverture du bon larron. Alors, nous autres là, il faut la conversion. Quand je vous dis, il faut s'ouvrir, il faut élargir l'esprit. L'Église catholique, il faudrait qu'on s'ouvre. Est-ce que je veux dire que tout va bien, tout est simple? Du tout. Il y a aussi des exigences. C'est ce qui est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, écoute, si tu vois que ta main droite là te conduit dans le péché, il faut la couper. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire? La main, en fait, ça prend le domaine des actions. Ce qu'il y a comme action, ce que nous faisons. Alors, tout ce que tu fais là, si ça ne te conduit pas au bien, si tu ne fais pas le bien, si tu écrases les autres, si tu fais des gestes de haine, si tu fais la violence avec tes mains, avec tes actions, eh bien, il faut arrêter ce que le Seigneur dit. Il faut changer, il faut faire le bien, il faut que tes actions soient des actions de bien qui conduisent à la bonté, à l'amour, à la générosité. La même chose, dit-il. Si tu rends compte que ton pied ou ta jambe te conduit au mal, coupe-la jambe.
La jambe, c'est quoi? En fait, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, c'est ce qui nous permet d'avoir nos projets de vie, c'est ce qui nous permet d'avoir des projets existentiels, des désirs existentiels. Eh bien, tes désirs existentiels, tes projets de vie, tout ce que tu entrevois pour aller, tout cela doit faire, doit être pour le bien, doit promouvoir le bien, doit promouvoir la bonté, l'amour. Mais si tout ce que tu prévois, tes choix existentiels t'écrasent les autres, il faut t'en débarrasser. C'est ça l'exigence chrétienne, c'est ça la vie chrétienne. Et puis, il donne l'exemple de l'œil. L'œil, c'est quoi? C'est notre vie intérieure. L'œil regarde. Eh bien, ce que nous voyons sur les sites internet, ce que nous lisons, les images qui reviennent, cela construit notre intérieur, bâtit notre intérieur. Si ce que nous voyons, les lectures que nous faisons, nous conduisent à la violence, nous conduisent au mal, à la haine, eh bien il faut s'en débarrasser. C'est ce que le Seigneur veut dire, arrache ton œil. Donc, nous devons nous ouvrir. Mais il faut être aussi cohérent dans la vie chrétienne. Alors, il faut prendre les deux ensemble. Alors dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de venir nourrir notre âme, de nous ouvrir davantage, de nous remplir de son esprit, pour que nous voyons comment il agit dans notre famille, comment il agit dans notre église, mais comment aussi il nous fait signe ailleurs, que nous soyons en mesure de le reconnaître. Mais aussi, nous allons demander de nous aider à être cohérents dans notre vie, que ce que nous annonçons, la foi que nous professons, eh bien que nous arrivions à le traduire concrètement dans nos actes en faisant continuellement le bien partout où nous sommes. Amen.